Passez une belle semaine et que Dieu vous a béni cette semaine. On veut reprendre notre série de messages ce matin sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. On a commencé il y a quelque temps sur cette série et jusqu'ici on a vu que le Saint-Esprit était notre consolateur. On est en train de s'arrêter pour voir le Saint-Esprit et on a vu que le Saint-Esprit était le consolateur. Dans les Écritures saintes, on a vu qu'il était notre avocat. Il est l'esprit de vérité, il convainc et son rôle est d'élever Jésus-Christ dans notre cœur. Et il est l'esprit du Fils, l'esprit de vie, l'esprit de sainteté. Et ce matin, on va rentrer dans un chapitre, un des très, très beaux chapitres qui parle du Saint-Esprit. On le voit puissamment à l'œuvre. Et on va voir aujourd'hui d'autres aspects du Saint-Esprit. On va voir que le Saint-Esprit est un esprit de nouveauté, d'unité et de puissance. Il n'y a pas de meilleur livre pour regarder le Saint-Esprit que le livre des Actes. Certains appellent le livre des Actes les Actes des apôtres, mais je pense qu'on devrait peut-être plus l'appeler les Actes du Saint-Esprit, parce qu'on voit plus de 50 fois le Saint-Esprit dans ce livre. C'est le livre où on voit plus souvent le Saint-Esprit que partout ailleurs dans le Nouveau Testament. Et pour ce faire, ce matin, on va tourner dans un passage dans le livre des Actes. Mais juste avant, on va demander au Seigneur sa bénédiction. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette matinée, te remercier pour ces frères et sœurs ce matin qui nous ont conduits en louange et qui ont préparé nos cœurs à entendre ta sainte parole. Nous voulons te remercier pour ces chants de louange, et certainement ça nous rappelle à quel point tu es grand et tu es digne de recevoir notre louange. Eh bien, Seigneur, que ton esprit ce matin accomplisse son œuvre en chacun d'entre nous. Nous venons de différents milieux. Nous avons tous notre histoire, on vit toutes sortes de choses, chacun d'entre nous. Et nous avons besoin vraiment de ton aide, de ton intervention dans nos vies. Eh bien, Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs avec ce passage si encourageant. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, tournez, si vous voulez bien, dans le livre des Actes, au chapitre 2. On va lire ensemble, Actes, chapitre 2, les 13 premiers versets, alors versets 1 à 13. C'est certainement un chapitre qu'on pourrait appeler les Actes du Saint-Esprit. C'est certainement chapitre 2, parce que c'est là que tout commence, vraiment, dans le livre des Actes. C'est la naissance de l'Église. Alors, Actes, chapitre 2. Et on va commencer la lecture au verset 1 pour aller jusqu'au verset 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient, assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondu par que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? » Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Alors, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire, la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Ce chapitre, le chapitre 2 du livre des Actes, marque vraiment le point tournant dans l'histoire du royaume de Dieu que l'on voit à travers les Écritures, dans tout l'Ancien Testament. C'est vraiment une nouvelle phase du plan rédempteur de Dieu qui prend forme ici avec la naissance de l'Église. C'est ici que ça commence, vraiment, l'Église. Maintenant, dans le premier chapitre du livre des Actes, les disciples attendent la venue du Saint-Esprit. Jésus avait dit dans le premier chapitre, d'ailleurs, on va lire, d'attendre justement à Jérusalem que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait faite et que lui-même avait promis, c'était la venue du Saint-Esprit. Dans le premier chapitre, c'est le chapitre où Jésus va monter au ciel. Après être apparu aux disciples, après sa résurrection, il est revenu voir les disciples et il leur disait d'attendre, ils étaient 120 disciples, la venue du Saint-Esprit, comme il avait promis. Et là, il est monté au ciel, ce que nous appelons l'ascension, alors que Jésus est monté au ciel. Et lorsqu'il monte au ciel, c'est le Saint-Esprit qui, quelque temps après, va descendre du ciel et va aller sur la terre, sur chaque croyant, les 120 disciples qui sont là réunis. Nous lisons dans Acte 1, le premier chapitre justement, qui dit ceci, « Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on arrive au chapitre 2, et le Saint-Esprit va descendre sur chaque croyant qui se trouve là, dans la chambre haute, où se trouvent 120 disciples. Acte 2 décrit la naissance de l'Église par la venue de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte. Et le miracle qui a lieu lors de cette fête juive, la fête de la Pentecôte, va nous révéler trois attributs du Saint-Esprit. On va apprendre que l'Esprit est l'esprit de nouveauté, un esprit d'unité et l'esprit de puissance. Alors tout d'abord, le Saint-Esprit est un esprit de nouveauté. Verset 1, nous lisons « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. » Le passage nous dit à quel moment le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, et c'était le jour de la Pentecôte, une fête juive. C'est donc le Saint-Esprit qui va venir lors de cette fête juive, la fête de la Pentecôte. La Pentecôte traditionnelle fait partie des sept fêtes juives que Dieu a instaurées dans Lévitique 23, dont trois fêtes sur les sept nécessitaient que tu quittes ta demeure et que tu viennes descendre à Jérusalem. Donc, il y avait plein de gens à Jérusalem, particulièrement la fête de la Pentecôte. C'était la plus achalandée parce que le voyage était le plus propice, plus facile dans ce temps d'année-là. Donc, c'était la fête juive où il y avait le plus de personnes réunies à Jérusalem. Maintenant, la Pentecôte traditionnelle que les Juifs célébraient va complètement changer. Ça va être nouveau, tout à fait nouveau. Elle ne sera plus jamais la même. Alors, c'est donc lors de cette ancienne Pentecôte que la nouvelle Pentecôte aura lieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Où est la différence? En quoi la Pentecôte est différente? Eh bien, il faut expliquer que la Pentecôte, tout d'abord, avait plusieurs noms. Rendu au Nouveau Testament, à la période du Nouveau Testament, on appelait ça la fête de la Pentecôte, la fête juive, mais à l'époque, lorsque Dieu l'a instaurée, bien des années, des centaines d'années avant, dans Lévitique 23, on voit plusieurs noms. On voit, par exemple, la fête des semaines. Et la raison est bien simple, c'est qu'il fallait attendre sept semaines après la Pâque pour la célébrer. Donc, les Juifs avaient ajouté une journée comme pour clore ce bloc de temps-là, 50 jours après Pâques, on célébrait la fête de la Pentecôte. Pentecôte qui veut dire, justement, 50e. Le mot hébreu qui vient de l'Ancien Testament, c'est le Shavuot. Les Juifs, aujourd'hui, parlent de Shavuot, cette fête juive, qui veut dire 50. Et on l'appelait de différents noms, non seulement qu'on l'a appelé la Pentecôte, la fête des semaines, mais aussi la fête de la moisson. Et c'est parce que, premièrement, au départ, on célébrait cette période de l'année où on voulait rendre grâce à Dieu parce que c'était le temps de la récolte. C'était vraiment l'abondance. On voulait remercier Dieu pour la récolte. C'était un peuple agricole. On dépendait totalement de Dieu, et comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'était un temps de fête. C'est vraiment un temps de joie, caractérisé par la joie. Ça devait être empreint de célébrité. C'était un temps festif, heureux, joyeux, et on voulait vraiment rendre grâce à Dieu pour l'abondance qu'il nous avait donnée. Donc, c'était d'abord la fête de la moisson, la fête de la récolte. Donc, c'est ce qu'on célébrait lors de cette fête juive. Avec le temps, cette fête est devenue également l'occasion de remercier le Seigneur pour le don de la loi mosaïque au mont Sinaï. Alors, vous vous rappelez de l'histoire lorsque Dieu a appelé Moïse à conduire son peuple, qui était esclave en Égypte bien des années avant le Nouveau Testament. Et Moïse a conduit le peuple hors de l'Égypte pour le conduire dans le désert. Et après plusieurs jours de marche, ils se sont rendus au mont Sinaï, la montagne de Dieu, en quelque sorte. Et Dieu était là, et c'est au pied de la montagne que Dieu a donné sa loi et ses commandements, la loi mosaïque. D'accord? Et donc, avec le temps, la fête de la Pentecôte était non seulement un temps d'action de grâce pour la moisson, on célébrait, on remerciait le Seigneur pour la moisson, la récolte, mais aussi, on célébrait, on remerciait Dieu pour le don de la loi. Alors ça, c'est très important à se souvenir de ça, parce que tantôt, quand on va arriver dans l'acte 2, on va voir ces allusions dans cette nouvelle Pentecôte. Ce que l'on voit donc dans le livre des Actes, presque 2 mois après la Pâque, 50 jours, on voit donc ce temps où les gens, rendus au Nouveau Testament, à cette période-là, où on va remercier le Seigneur pour le don de la loi. Maintenant, au cours de cette fête, avec les années, les fêtes, les familles juives racontaient à leurs enfants, lors de cette fête, comment Dieu avait donné, justement, la loi à cette montagne sainte. Puis, il y a toutes sortes de traditions. Vous savez, les Juifs sont des experts à ajouter et des lois et des traditions et tout ça. On pense juste à la fête du sabbat, qui était juste 3 détails quand Dieu l'a donné. Elle est rendue au Nouveau Testament. Les Juifs avaient tellement ajouté de règlements. On était rendu 100 et plus de règlements pour la fête du sabbat. Alors, et donc, avec les années, les Juifs ont ajouté des détails à cette fête. Et ce que les familles juives racontaient à leurs enfants lors de cette fête, et encore aujourd'hui, on va donner des détails. Comment Dieu avait donné sa loi avec sa voix. Et ce que les parents racontaient à leurs jeunes enfants, c'était toujours, toute chaque fête juive est une belle occasion où les parents peuvent raconter des histoires saintes. Et ce que les parents racontaient à leurs enfants lors de cette fête, la fête de Pentecôte, c'était que non seulement les Juifs avaient entendu la loi, puis ils racontaient évidemment que la montagne tremblait, on voit ça dans l'Ancien Testament, les gens avaient peur parce que la montagne tremblait, il y avait du feu. Et donc les parents disaient à leurs enfants que non seulement ils entendaient la voix, mais ils voyaient la voix. La voix de Dieu était tellement sainte, tellement belle, que non seulement ils l'ont entendu, ils l'ont vu. Alors ça rentre dans les histoires juives, évidemment. On ne voit pas ça dans l'Ancien Testament. C'est juste les Juifs qui ont ajouté ces détails-là. Mais c'est intéressant lorsqu'on apprend ces choses et qu'on va arriver tantôt dans le livre des Actes. Alors, les Juifs racontaient à leur famille que chaque fois que Dieu prononçait un mot, une flamme sortait et se divisait en 70 langues. Et le mot 70, c'est important parce que dans l'Ancien Testament, ça représentait toutes les nations. D'ailleurs, on voit ça dans l'Ancien Testament. Les nations du monde entier. Parce que l'idée était, les Juifs se disaient qu'un jour, la parole de Dieu va s'étendre à travers le monde. Et ça, c'était dans la conception juive. Un jour, la parole de Dieu va s'étendre à toutes les nations. Alors ça, c'était la première Pentecôte, la Pentecôte juive. Et ce que l'auteur du livre des Actes, Luc, est en train de nous dire, en nous décrivant vraiment cette première Pentecôte chrétienne, on va l'appeler de même pour la distinguer, c'est qu'elle était une nouvelle Pentecôte. Cette nouvelle Pentecôte était donc l'accomplissement de la première Pentecôte. Laissez-moi vous donner un exemple. À la première Pentecôte, la première Pentecôte représentait la moisson. Et on voit ici toute une moisson, alors que 3000 personnes vont venir à Jésus-Christ, et c'est la naissance de l'Église. Et cela donnait à penser que c'était le début d'une grande moisson qui aurait lieu. La première Pentecôte représentait le don de la loi mosaïque, qui était écrit sur des pierres, sur des tablettes de pierre, si vous vous souvenez bien, l'histoire avec Moïse. Alors que la nouvelle Pentecôte, C'est vraiment le don du Saint-Esprit qui va écrire la loi de Dieu, non pas sur des tablettes de pierre, mais il va les écrire sur le cœur. Alors, il y a des allusions comme ça entre la première, la nouvelle Pentecôte qui va accomplir finalement l'ancienne Pentecôte. Dans Jérémie 31, ça le disait d'ailleurs, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'était une promesse qu'un jour, Dieu était pour écrire sa loi sur leur cœur. Et ça, c'est la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. C'est la nouvelle Pentecôte, c'est la nouveauté. Lorsque Jésus est monté au ciel dans Acte 1, il perce vraiment le ciel. Et c'est là que le Saint-Esprit va descendre sur chaque croyant. Et c'est la naissance de l'Église, c'est ce qui se passe. C'est la nouveauté, c'est une nouvelle famille, l'Église. C'est nouveau. Alors, ce que nous enseigne le passage du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de nouveauté. Et non seulement ça, c'est l'esprit d'unité. On voit qu'il y a des gens qui viennent de partout dans Acte 2, verset 9. Ça parle de Parthes, de Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie. Il y a des gens qui viennent de partout, de l'Iran, de l'Irak, de la Judée, de la Turquie, de l'Égypte, Rome, les Arabes sont là aussi. Et Luc nous dit au verset 5 qu'il y avait des Juifs, des gens pieux, de toutes les nations sous le ciel. Et ça, c'est important, ça. Il y a des gens qui viennent de partout, de toutes les nations sous le ciel. Alors, il y avait donc des représentants de toutes les nations, et c'est là que le Saint-Esprit vient, il descend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va unir. Il va faire un miracle de sorte que tout le monde va les entendre dans leur langue. Il va les unir. Il va passer au-delà des barrières qui nous séparent, qui est les diversités de langue, dans le fond. On lit justement au chapitre 2, verset 4, Et les disciples, les 120, furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns les autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous? » Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. Et ça, c'est un miracle, le don des langues ici. Ces premiers chrétiens reçoivent le don des langues. Alors, afin que ces Juifs qui sont venus de partout puissent les entendre parler de Dieu dans leur langue maternelle. Imaginez la scène. Tu t'en vas aux promenades, tu rencontres un Italien. Et là, miraculeusement, tu commences à parler l'italien. Tu n'as jamais pris un seul cours d'italien. Et là, tu commences à parler en italien. Puis tu commences à lui parler de l'Évangile. Tu lui présentes l'Évangile, puis il se convertit au Seigneur Jésus-Christ. Pourrais-tu imaginer ça? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Ils n'avaient jamais appris les langues, les dialectes, les langues maternelles des gens qui venaient de partout. Mais là, c'est ce qui est arrivé miraculeusement, sans même prendre aucun cours linguistique, aucun cours de langue. Comme ça, ils ont commencé à apprendre à parler l'italien. On aimerait savoir le don des langues, hein? C'est-tu merveilleux? Bien, c'est ça qui est arrivé ici. Puis ils ont commencé à parler de Dieu. Une scène tout à fait extraordinaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Dieu veut montrer à travers ce miracle? Bien, est-ce que ça ne vous fait pas penser à la tour de Babel? Rappelez-vous ce qui s'est passé à la tour de Babel, dans le fond. Tu vois un peuple ici qui ne voulait absolument pas se disperser, alors que Dieu avait demandé que les gens se dispersent, se multiplient à travers le monde. Et les gens ont refusé de se disperser. Ils ont voulu, au contraire, construire une ville tout à fait énorme, grandiose. C'était le summum, l'apogée de la création de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Pour une question d'affirmation de soi, l'orgueil, ils ont voulu monter même une tour immense, la tour de Babel, et la raison, c'est qu'ils voulaient atteindre le ciel, ils voulaient que l'homme puisse monter au ciel, et c'était vraiment comme le summum de la gloire. Dieu a dit, non, ça ne marchera pas. Jusque-là, nous lisons d'ailleurs un chapitre avant le jugement que Dieu a prononcé contre Babel, contre les gens de Babel, jusque-là, les gens parlaient une seule langue. 70 nations, une seule langue. Tout le monde parlait la même langue. D'accord? Est-ce qu'ils parlaient le français? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais jusque-là, ils avaient juste une langue. Et à la tour de Babel, qu'est-ce qui est arrivé? Eux qui voulaient rester unis et puissants et la plus belle ville possible, inimaginable, que l'homme n'ait jamais créée, Dieu a forcé en quelque sorte qu'ils se dispersent parce qu'ils ne s'entendaient plus. Dieu les a jugés, leur a donné diverses langues. Donc, 70 nations, 70 langues différentes. Et là, les gens commencent à parler l'italien, l'anglais, le français. C'est là que ça a commencé, les langues. Et là, qu'est-ce que ça a créé? Si moi, je te parle, toi, tu parles l'italien, je vais chercher dans la foule d'autres personnes. Si moi, je parle français, je vais chercher d'autres personnes qui parlent français. Et c'est comme ça que c'est produit. Et là, on s'est divisé, dispersé à travers le monde. Ça, c'était un jugement où Dieu a divisé les peuples. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on voit dans Acte 2? On voit tout à fait le contraire. On voit le renversement de la malédiction qui a été prononcée sur Babel. Ce n'est pas un changement complet, ce n'est pas un renversement complet, mais il y a une chose qui se passe, par exemple, c'est que ce qui divisait les peuples à Babel, la langue, maintenant, miraculeusement, les gens vont pouvoir parler à toutes les langues des merveilles de Dieu. Donc, il y a un renversement dans ce sens-là, c'est que toutes les nations sont, entendent et comprennent dans leur langue maternelle la parole de Dieu. Et ça, c'est magnifique. En d'autres mots, on va au-delà des barrières sociales, barrières culturelles, et c'est comme il y a une unité miraculeuse qui se crée autour de la parole de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe ici, où nous voyons des gens avec des arrière-plans différents, tout d'un coup s'unir autour d'un seul message, le message de Jésus-Christ. Créer cette unité miraculeuse, c'est finalement la naissance de l'Église, où les gens vont être unis par Jésus-Christ et par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est son œuvre, la naissance de l'Église. Et on voit cette idée-là qui va revenir dans Éphésiens, où Dieu, il est dit dans Éphésiens 2 que le mur qui nous séparait avant les Grecs et les Juifs, les non-Juifs et les Juifs, ce mur qui nous séparait a été renversé, brisé, et maintenant nous sommes unis ensemble en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu qui brise ces divisions, ce qui sépare, c'était la langue à Babylone, et maintenant, il passe à travers ça. Il ne change pas tout, il ne renverse pas toute cette malédiction. Il va garder la diversité, les différentes langues, mais maintenant, tous sont quand même unis en Jésus-Christ. Et ça, mes amis, Dieu est en train de récupérer le monde perdu en fait une seule famille, c'est la famille de Dieu. Et ça, les amis, ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 le dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit arabe, soit québécois, canadien, américain, quel que soit votre arrière-plan, juif, grec, esclave, libre, nous formons un seul corps. Partout à travers le monde, une seule famille qui est Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, ça c'est sa famille. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu va prendre un nouveau croyant et va le mettre dans le corps de Christ et va en faire un membre de sa famille, un membre de son corps, le corps de Christ. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, c'est cet acte-là où on est placé dans la famille de Dieu et on devient membre de cette famille. Alors la moisson commence. Les gens de toutes les nations qui entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et le Saint-Esprit a commencé ce grand rassemblement, cette œuvre miraculeuse qui nous unit. Et le Saint-Esprit crée une nouvelle communauté, la naissance de l'Église. Et cette communauté va être complètement différente des autres. Par exemple, la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes caractérisé par la réconciliation. D'ailleurs, même l'apôtre Paul a dit on a reçu un ministère de réconciliation. Et non seulement nous avons été réconciliés avec Dieu, on se réconcilie les uns avec les autres. Et c'est ça qui devrait nous caractériser comme l'Église, être reconnu pour être une Église qui ne fuit pas les conflits, mais qui cherche à les régler, qui ne divise pas, mais qui unit, qui cherche à se réconcilier. Et ça, c'est une des qualités qui doit ressortir très fort, doit passer par-dessus les barrières. Il ne devrait pas avoir de racisme dans l'Église de Jésus-Christ. Au contraire, nous sommes unis en Christ. Il ne doit pas y avoir de différence. Il y a des différences culturelles, mais on passe à travers et on accepte ces différences-là. On célèbre même ces différences-là. On aime découvrir les différentes cultures. On ne se sent pas menacé par ça. Alors, le Saint-Esprit incite cette nouvelle famille, cette nouvelle communauté à rechercher la réconciliation. L'Esprit uni. Et on a non seulement l'esprit de nouveauté, l'esprit d'unité, mais on a aussi l'esprit de puissance. C'est assez phénoménal ce qui se passe ici, verset 2. Regardez comment Luc va décrire cette expérience-là. Il va manquer de mots, il ne sait pas trop comment le décrire, donc il va faire une comparaison, il va donner une image, il va parler de vent, mais dans le fond, il y a un bruit bizarre qu'il n'a jamais entendu avant. C'est à peu près comme si quelqu'un du Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament, entendait un bruit de voiture. Ça serait comment tu décris ça en des mots, quand le mot voiture n'existe même pas. Et il y a quelque chose qui se passe ici où il n'y a pas de mots pour décrire le son, donc il va prendre l'image du vent. Il dit, il vint du ciel un bruit, verset 2. Un bruit comme, il ne dit pas c'est du vent, mais il dit c'est comme celui d'un vent très fort, impétueux. Il y a eu un bruit dans la pièce, et si on s'en vint là, il y a un bruit, ça ressemble à du vent. Il remplit toute la maison. Qu'est-ce qui remplit toute la maison? C'est ce bruit-là. Là. Il vint du ciel. Alors, il y a un ciel, il fait du bruit, le ciel fait du bruit, descend dans la pièce et remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, imaginez, vous êtes assis là. Là. C'est vraiment extraordinaire. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, c'est évident que c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. L'Esprit-Saint qui descend dans ce lieu, et Dieu est dans la pièce. Et là, les disciples sont comme impressionné, envahi par cette sensation de présence de Dieu. Et là, le Saint-Esprit va évidemment brûler leur cœur, enflammer leur cœur. Vous vous rappelez ce passage où les deux disciples, Jésus vient rejoindre deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et Jésus, ils ne reconnaissent pas Jésus, puis Jésus est en train d'expliquer les Écritures et tout ça, et les deux gars se parlent après que Jésus soit parti, puis il dit, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsque Jésus nous expliquait les Écritures? Cette sensation-là de brûlure, regardez l'image ici, des langues de feu leur apparaît, est en train d'apparaître, et ils se posent sur chacun d'eux. Pourquoi chacun d'eux? Il y a quelque chose qui se passe, là. Le Saint-Esprit est en train d'écrire la parole de Dieu dans leur cœur. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est qui est en train de se passer. Et on le voit par la réaction après ce qui va se passer. Un bruit, comme un gros vent, un bruit indescriptible. Et c'est cette présence de Dieu qui est là ici. Nous lisons dans le verset 11 que les gens les entendaient parler des merveilles de Dieu. C'est ce qui s'est produit à travers cette expérience du baptême du Saint-Esprit, où là, ils ont commencé à parler du Seigneur, de Jésus-Christ et des merveilles de Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit te contrôle. Ton cœur est plein, ça déborde et tu vas commencer à parler de Dieu. Tu vas parler en bien de Dieu. Tu vas commencer à louer Dieu. On voit la misère à te faire taire parce que tu vas vouloir parler de ton Dieu. Et là, les disciples changent complètement Ils reçoivent un immense courage, une assurance incroyable et un puissant témoignage de la grandeur de Dieu. Ce qui va ressortir de ce passage, c'est une chose, c'est l'assurance. L'assurance des disciples. Parce qu'il ne faut pas oublier, juste quelques jours avant, ces gars-là couraient, là. Ils fuyaient. Ils étaient prêts à renier le Seigneur face à la mort, là. Puis les mêmes personnes qui fuyaient, qui s'en allaient, se cachaient, ces mêmes disciples-là, maintenant, sont remplis d'assurance et ils vont commencer à parler des merveilles de Dieu à Jérusalem devant cette foule-là. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive quand tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu as de l'assurance, de la puissance et tu vas commencer à proclamer, tu vas commencer à parler des merveilles de Dieu, tu vas commencer à être un témoignage puissant de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, on devient des témoins puissants. Notre Église a la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on sert de la puissance du Saint-Esprit? Lorsque tu es devant une personne, est-ce que tu as peur? Mais réalises-tu qu'en toi, le Saint-Esprit est là et te donne la puissance pour être un témoin efficace et puissant à n'importe qui? Matthieu 16, Jésus l'avait déjà dit. Il dit, « Je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne résistera pas, ne prévaudra pas contre elle. » Vois-tu le ton comme si l'Église était à l'offensive? Elle n'est pas à la défensive. Nous sommes conquérants, on voit ici un ton conquérant, victorieux, puissant. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener. Et nous avons tous des peurs. Dans certains domaines de notre vie, on a des peurs. Mais il n'y a pas raison d'avoir peur. Parce que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit et nous a donné un esprit de courage, de conquérant, de puissance. Le Seigneur est avec nous. On peut faire des belles choses. Et ce qui frappe ici dans Acte 2, c'est vraiment l'assurance. Ça ressort à travers tout le chapitre de voir l'assurance des chrétiens. Même Pierre qui a renié le Seigneur, lui-même va se lever, va commencer à prêcher son premier sermon. Et il ne gênera pas, là. Et il va prêcher son premier sermon et 3000 personnes vont se convertir. Ce n'est pas la même personne. Auriez-vous embauché le Pierre qui a renié le Seigneur? On embaucherait tout de suite, hein, le Pierre de Actes chapitre 2. Tu vois-tu la différence? Un caractérisé par la peur, l'autre l'assurance. C'est ça, l'œuvre de l'Esprit. C'est le même gars, même personnalité. La seule différence, c'est qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en lui. Et c'est vraiment différent de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Chaque fois dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on voit Dieu apparaître sous une forme de feu, de vent, chaque fois qu'il apparaît, les gens ont peur. Dans l'Ancien Testament, là, ça c'est catégorique, les gens ont toujours peur lorsqu'il y a une théophanie dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle une théophanie, une apparition de Dieu sous une forme quelconque dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, on le voit au Mont Sinaï, lorsque Dieu a donné la loi au Mont Sinaï. Mon ami, les gens avaient tellement peur, il y avait du feu, il y avait tremblement de terre, du bruit, Moïse a monté pour aller voir Dieu, mais les gens sont restés en bas du Mont Sinaï, puis ils avaient peur, terriblement peur. On lit dans Exode 19, par exemple, « Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » D'ailleurs, nous lisons un chapitre plus loin dans Exode 20, on lit « Tout le peuple attendait les coups de tonnerre et les sons de trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur qu'on meure. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. » Donc, il y a la sainte crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est ce qui caractérisait l'Ancien Testament. Mais ce qu'on voit dans Acte 2, avec le même bruit, on voit ce qui se passe ici, on ne voit pas la peur. Tout ce qu'on voit, c'est l'assurance, l'émerveillement. À cette nouvelle Pentecôte, on voit de l'assurance. Les gens sont surpris. Mais au lieu de vouloir s'éloigner de Dieu, on voit tout à fait le contraire. Au lieu de voir le vent qui frappe la montagne, ou le feu dans la montagne, on voit le feu et le vent qui descend sur les gens. Pas de montagne, non, c'est sur les gens. Et là, Pierre va se lever, il va commencer à prêcher. Imaginez 3000 conversions comme ça après un seul message, avec 120 disciples. Là. Ça fait pas mal de visites, ça, Alexandre, hein, dans V2. 120 chrétiens qui doivent faire le suivi de 3000 personnes. Ça fait pas mal de visites, ça, pas mal de rencontres. Là. Mais réalisez-vous qu'on peut faire la même chose ici à Gatineau. Dieu peut faire la même chose ici. Il y a plusieurs années, un journaliste du nom de Clarence Hall a accompagné des troupes américaines lorsqu'ils sont rentrés dans un village. D'ailleurs, ils sont allés au Japon en 1945, ils ont fait quelques villages. Et puis là, d'un coup, ils se sont rendus dans un village du nom de Okinawa. Et ils étaient vraiment frappés, le journaliste et son chauffeur étaient frappés de voir la différence de ce village avec les autres villages. Vraiment frappés parce que les autres villages étaient caractérisés par le désespoir, le découragement, c'était très sombre. Mais quand ils sont arrivés dans ce village-là, dans cette communauté-là, un village aujourd'hui rendu, c'est rendu vraiment une ville, il y a près de 128 000 personnes, mais dans ce temps-là, c'était plus un village, c'était plus petit. Mais ils étaient surpris, le chauffeur et le journaliste étaient vraiment surpris de voir la différence de ce village-là par rapport aux autres villages. Ah, c'était tellement différent. Le témoignage du journaliste, parce qu'il écrit son vraiment ce qui s'est passé lorsqu'il est rentré dans le village, il raconte, « Nous avions vu d'autres villages alentour, mais ils reflétaient que le désespoir. Mais ce village était très différent. Il brillait comme un diamant. Il dit, partout où on allait, on se faisait accueillir avec des beaux sourires, du respect. Les anciens de la ville, d'ailleurs, étaient très fiers de nous montrer leur maison, leur demeure, impeccable, toute propre. Les familles semblaient aller très bien. Ils étaient fiers de nous montrer leur usine. Ils avaient une usine de sucre. Et il n'y avait aucune prison, aucun prisonnier. Ils n'ont pas vu aucune personne en état d'ébriété. Puis les familles allaient bien. Alors, ils ne comprenaient pas. Ils ont commencé à parler avec les gens. Ils ont découvert qu'une trentaine d'années passées, il y a un missionnaire qui est rentré dans la ville. Et il a conduit deux personnes au Seigneur. Et il est parti. Il a laissé une Bible japonaise. Et les gens ont commencé à parler du Seigneur et à étudier leur Bible. Ils ont commencé à témoigner et conduire d'autres personnes au Seigneur. Si bien que là, les années ont passé et le village avait complètement changé. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre le témoignage du chauffeur. Lui ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, il est arrivé à la conclusion et il a dit à la fin d'avoir tout visité ça. Il dit, bon sang, il dit, c'est ça que ça fait quand tu as une Bible. Puis deux personnes qui décident de suivre Jésus. Imaginez, frères et sœurs, deux personnes ont changé un village au complet. 120 personnes ont affecté et changé des personnes de toutes les nations. Imaginez ce que l'Église de Gatineau peut faire. Pensez-vous qu'on peut avoir un impact dans la région, ayant le Saint-Esprit avec nous. Amen. L'esprit de nouveauté, d'unité et de puissance. Nous avons cette puissance. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce beau miracle que nous voyons dans Acte 2, qui est un miracle qui est également sur chacun d'entre nous qui avons placer notre foi sur Christ. Seigneur, nous voulons te remercier pour le baptême du Saint-Esprit qui nous a placés dans ta famille, le corps de Christ. Et Seigneur, encore une fois, si quelqu'un ce matin ne te connaît pas personnellement, nous prions que ton esprit puisse faire son œuvre dans son cœur en ce moment, afin d'écrire ta parole sur son cœur, afin de lui donner un nouveau cœur. Et Seigneur, nous avons tous des défis chacun dans notre vie, et nous voulons nous rappeler que nous avons non pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage et de force et de puissance. Donne-nous cette foi dont nous avons besoin pour aller de l'avant et vaincre ces combats que nous avons tous dans nos vies. Parfois, ces combats, malheureusement, c'est des combats de couple. Mais nous te prions que ton esprit nous donne de surmonter ces tentations de colère, d'animosité, de jalousie, d'orgueil. Et que, Seigneur, nous puissions avoir cet esprit d'unité dans nos foyers, dans nos familles, avec nos enfants aussi. Fais cette œuvre en nous, dans nos familles et dans nos quartiers. Tout comme Pierre a prêché un message et 3000 personnes sont venues à toi. Le message de la croix, de la résurrection, le message de l'Évangile. Nous prions que nous ayons autant d'assurance de parler à nos voisins, nos collègues de travail, des merveilles de Dieu. Et nous voulons prendre la Sainte-Cène ce matin avec action de grâce, parce que nous faisons partie de ta famille maintenant. Nous avons été réconciliés avec toi grâce à Jésus. Amen.